à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un chef d'entreprise, Marc Vigneron. Marc Vigneron, bonjour.
Bonjour Bruno.
Marc Vigneron, vous êtes directeur général d'une entreprise que vous avez reprise il y a quelques années, en 2018. Combien de salariés ?
Aujourd'hui, alors, en 2018, j'en ai repris que 5 de l'ancienne structure. Et aujourd'hui, on est à peu près autour d'une bonne vingtaine, 23-24.
Voilà. Bon. Et qui est dans le secteur de l'énergie, bâtiment ?
C'est ça, électricité, chauffage.
Électricité, chauffage. Et vous avez une carrière, d'abord des études d'ingénieur, une carrière d'ingénieur. Vous avez roulé votre bosse dans des grands groupes. J'ai noté PSA, j'ai noté Eiffage Énergie. Mais maintenant, vous êtes patron d'une PME. Et à ce titre, vous êtes aussi très engagé dans les réseaux d'affaires toulousains, notamment la Chambre de commerce. Mais ça ne vous empêche pas, et c'est ça qui nous intéresse ici, de mener en parallèle de cette vie d'entrepreneur extrêmement prenante, on le sait bien, d'avoir des engagements chrétiens, catholiques, qui vous permettent d'aligner votre foi catholique avec votre métier, votre activité. Alors j'ai noté notamment que vous faites de la maraude quand vous avez le temps à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai noté que vous êtes dans différents réseaux dans votre paroisse avec votre épouse. Donc permettez-moi d'en dire un mot. Votre épouse Marion est aussi très engagée dans votre paroisse qui est celle de l'Immaculée Conception, c'est ça? Vous êtes mariés depuis 20 ans, vous avez 43 ans et vous avez 5 enfants. Et vous êtes tous les deux issus de familles nombreuses. Vous-même, je crois, 6 enfants.
C'est ça.
Et votre épouse, 5.
4 enfants, c'est ça.
4 enfants. Donc, 4, c'est déjà une famille nombreuse dans le contexte actuel. Donc, ça ne vous a pas dissuadé d'avoir vous-même beaucoup d'enfants. Félicitations, il y en a d'autres que ça pourrait décourager. Donc, vous êtes quelqu'un de très atypique un peu. Mais vous me disiez, il y a quelques minutes, en discutant, que finalement, il y a plus de gens qu'on ne croit, qui sont dans les mêmes dispositions d'esprit que vous, en étant chef d'entreprise et en même temps en ayant un engagement et des convictions chrétiennes. Et donc, vous êtes dans un réseau, Entreprendre notamment. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce réseau ?
Le réseau Entreprendre est parti d'une conviction que c'est ensemble qu'on peut aider les autres. Ce réseau a été monté à une époque où dans le Nord, le textile avait de grandes difficultés, et monté par des entrepreneurs chrétiens qui avaient cette éducation de l'entraide. Et quand l'activité économique n'a plus permis le développement de leurs entreprises, voire la décroissance de leurs entreprises, ils ont décidé de s'organiser pour sauver l'emploi, pour sauver tous ces gens qui ont contribué à cet essor économique dans cette région. Et donc c'est là qu'ils ont créé le réseau Entreprendre, qui a permis en fait à ces chefs d'entreprise de préparer des futurs chefs d'entreprise, de les aider, c'est-à-dire de recevoir leurs projets, de les analyser, tout ça sous bénévolat. Donc c'est ça qui est beau, on voit vraiment une charité chrétienne, de pouvoir aider ces jeunes porteurs de projets à ce que le projet puisse croître et puisse demain créer de l'emploi. Le plus important dans les réseaux entreprendre, c'est bien sûr que l'entreprise croise, mais surtout qu'elle crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'une entreprise où la personne serait seule et ferait de l'activité seule ne peut pas être éligible au réseau Entreprendre. Et ça, c'est une belle valeur qui est que, en fait, on est là pour créer de la valeur et donc créer de l'emploi.
Donc c'est un réseau d'entrepreneurs chrétiens, on peut le dire, parce que c'est la caractéristique commune, plus que chrétien catholique peut-être.
Alors non, il n'y a pas de...
Pas exclusivement. Donc c'est un réseau d'entrepreneurs chrétiens. Qu'est-ce qui différencie ces entrepreneurs chrétiens du paternalisme qu'on a souvent critiqué?
Alors aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, en fait, que l'entreprise, on ne peut pas développer son entreprise isolée dans son coin, parce qu'on sait quand on travaille dans une entreprise que le contexte économique peut vite se retourner, et qu'en fait, on peut anticiper des contextes plus difficiles en partageant ensemble de nos épreuves, de nos joies, nos difficultés, nos façons d'agir. Et on le voit aujourd'hui, tous les ans, en fait, quelque chose de nouveau apparaît. La crise du Covid, la hausse des matières, le conflit en Ukraine. Et à chaque fois, un chef d'entreprise n'y voit pas plus loin en ce moment que 3, 6 mois. Donc c'est en partageant avec d'autres de ses épreuves, de ses échecs, de ce qu'il n'arrive pas à faire, qu'on arrive entre nous à se trouver la solution pour que le bien commun, c'est-à-dire nos salariés qu'on a, et qui nous permettent de leur sortir un salaire.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à des prêts financiers,
alors,
un soutien?
Tout à fait. Le but de Réseau Entreprendre, c'est donc de recevoir ces nouveaux chefs de ces nouveaux porteurs de projets, de les auditionner. Je dis souvent en rigolant à mes amis, c'est un peu comme The Voice, c'est-à-dire qu'on passe devant 5 chefs d'entreprise. Et donc, si le premier chef d'entreprise considère que le projet est viable, on passe devant un deuxième. À l'issue des 5, comme ça, ainsi de suite, on passe devant un comité d'engagement. Ce comité d'engagement est à l'unanimité, il faut le dire. Il y a dedans, dans ce comité d'engagement, des chefs d'entreprise, des banquiers, des comptables, des gens issus du milieu économique qui vont venir voter si le projet est viable ou pas. Il faut voir une chose, c'est que ça peut paraître très élitiste, mais comme m'avait dit une fois une personne dans ce comité d'engagement, lui, il avait donné de son temps au tribunal de commerce et il m'a dit, tu sais Marc, si un jour tu votes un verre en te disant par charité pour ce porteur de projet, tu sais que moi derrière je les récupère au tribunal de commerce et ils embarquent parfois toute leur famille dans un projet fou qui ne tient pas la route. Et donc, il faut avoir conscience que ces futurs chefs d'entreprise, eh bien, il faut les recevoir.
S'assurer que c'est viable.
Exactement.
Pour pas qu'ils embarquent et que finalement ils fassent beaucoup de malheur derrière eux.
C'est ça. Et après les accompagner, en fait, il y a un accompagnement pendant 2 ans par un chef d'entreprise de leur choix.
Et donc ce réseau est un réseau national, donc c'est parti du nord de la France. Il y en a dans toutes les régions à peu près ?
Alors maintenant, il y en a dans toutes les régions. Ils sont représentés dans toutes les régions. On a fêté les 50 ans du réseau. Donc maintenant, c'est un réseau qui est assez ancien. Toute la France est représentée et des réseaux très actifs. Ici, sur la région toulousaine, le réseau est très actif. Alors, j'ai plus les chiffres du nombre d'entreprises qui sont adhérentes au réseau, mais ça représente un bon paquet d'entreprises toulousaines. Oui.
Et vous, quel est votre rôle précis dans ce...
Alors, au départ, j'étais lauréat en 2018 du réseau. Je suis rentré dans le réseau grâce à ça. Et puis, petit à petit, dans le réseau, on reçoit et puis après, on donne. Et en fait, j'ai été accompagné pendant 2 ans par un très grand chef d'entreprise qui m'a beaucoup aidé, qui est le responsable de l'ancienne radio, enfin qui est le responsable de la radio Toulouse FM, qui m'a accompagné en fait sur mon parcours. Et aujourd'hui, de cet accompagnement, l'entreprise se développe bien et j'ai besoin de rendre. Donc le réseau m'a dit, on a plein de places à prendre. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnateur d'une entreprise toulousaine qui vient d'être créée, qui vient d'être reprise dernièrement.
Ah oui, il y a un système de parrainage.
Exactement. Donc là, je vais l'accompagner pendant 2 ans. Tous les mois, on va se voir pour que je l'aide dans le développement de son entreprise. Et en parallèle, je fais partie de comités d'engagement. Donc, j'ai la responsabilité de voter des projets qui seront lauréats.
Bien, c'est très intéressant, cette solidarité de chef d'entreprise. Ça montre quand même que, parce qu'ici, on en reçoit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne conçoivent pas l'entreprise comme un lieu où le seul objectif est de faire du profit, mais comme un lieu humain où la richesse, ce sont les hommes. Je crois que c'est bien ça, votre philosophie.
Exactement.
Ce que j'ai compris.
En fait, j'ai toujours eu, mon papa m'a élevé dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, vous savez qu'une ferme...
Famille d'éleveurs dans le Limousin,
voilà.
Oui, j'ai noté ça.
Voilà, et je peux vous dire que j'ai retenu une chose, c'est qu'économie, ça vient de economios, si mes souvenirs sont bons,
oui,
dire, en fait, en quelque sorte, l'économie de la maison, du foyer. Et dans les fermes rurales, on a encore un peu cette entraide, cette notion de vivre de son travail. Donc, venez dans cette ferme, des gens, alors parfois de la famille, des jeunes, des copains de classe qui voulaient se faire 4 sous, mais aussi des gens un peu cabossés qui avaient envie de se retrouver une voie. Et donc, mon papa m'a transmis ça et j'étais persuadé que dans le milieu de l'entreprise, on pouvait faire ça aussi. Il n'y avait pas que dans une ferme. Alors c'est vrai qu'on entend à la radio un peu trop souvent certains patrons qui sont souvent pas forcément des propriétaires de leurs entreprises, c'est-à-dire des gens qui ont plutôt, j'ai envie de dire, des PDG qui ont une responsabilité de développement de cette entreprise, mais ce sont des salariés et on leur a donné une mission de relever une entreprise qui parfois, on entend des grands slogans à la radio, voilà, qui partent avec des gros stock options, qui se sont bien servis, on va dire. Mais on ne parle pas de tous ces patrons qui, eux, donnent leur vie dans ces entreprises pour les développer.
Oui, je crois qu'on a tous bien vu, noté, à travers nos histoires respectives, que l'entreprise, le capitalisme familial est autre chose que le capitalisme international. Ceci étant, dans le capitalisme international, c'est une chose qu'on oublie souvent, mais en ce moment, il y a eu ce débat avec le débat sur les retraites. On a entendu dire les super profits, les entreprises ne pensent qu'aux actionnaires, etc. On oublie de dire que les actionnaires, ce sont des retraités, en fait. Et ce sont des fonds de pension, bien souvent anglo-saxons ou européens, parce qu'en France, on n'a pas ce système de capitalisation, où en fait, la solidarité entre les générations existe. Mais elle existe d'une autre façon, à travers des fonds de pension qui sont en réalité des caisses de retraite.
C'est vrai.
Et donc, bon, évidemment, il faut trouver des équilibres, mais il est clair que l'équilibre d'une entreprise familiale n'est pas le même. Et ça, les entrepreneurs du Nord nous l'ont vraiment montré depuis le 19e siècle. Bien, Marc Vignera, je suis là aussi pour vous demander de me parler d'une association dans laquelle vous êtes très impliqué, qui est Pour un sourire d'enfant, connu sous le sigle PSE.
Alors non, Espérance Banlieue.
Espérance Banlieue. Pas pour...
Qui est aussi une belle association.
Qui est aussi Espérance Banlieue. C'est vrai, pour un sourire d'enfant, on oublie, c'est autre chose. Mais Espérance Banlieue, donc qu'est-ce qu'Espérance Banlieue et comment vous êtes arrivé dans cette association de formation des jeunes de milieu, a priori avec un capital culturel faible. C'est bien ça.
Oui, exactement. Alors, comment j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé sur... En fait, un ami avait ce projet d'éducation et se disait, en effet, on doit pouvoir aider tous ces jeunes qui sont en difficulté scolaire de par, souvent, leur langue. Ils ne parlent pas la langue française et donc c'est difficile pour eux. Et il avait cette ferme conviction que ces enfants-là, il faudrait pouvoir les intégrer dans notre pays, que demain, ils puissent être libres avec la faculté de pouvoir lire, écrire, compter. Et il a décidé de commencer à créer ce projet Espérance Banlieue sur Toulouse. Il s'avère qu'on habitait dans la même ville. Et un jour, il me dit « Tu cours beaucoup, ben, ça tombe bien, on va organiser un marathon. Et est-ce que ça te dirait de courir pour Espérance Banlieue ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, c'est drôle, parce que je m'étais dit un jour, je ferais peut-être un marathon, parce que j'aime bien courir, mais de manière modérée. Mais là, ça va me donner une bonne raison de courir. » Alors, je peux vous dire que quand vous courez 42 km, vous avez intérêt d'avoir un but, parce que à la fin, c'est dur. Et donc, quand vous courez, vous dites « je cours pour des enfants qui vont apprendre à lire et à écrire et à parler français », je peux vous dire que les derniers kilomètres sont plus faciles et plus légers. Et donc, de cette expérience, ce qui est assez drôle, c'est que je reprenais une entreprise qui était dans le même quartier que là où l'école allait trouver son local.
Qui est le quartier du Zénith.
Exactement.
Hein, l'ancienne...
Cartoucherie.
Cartoucherie. Une partie est restée à l'armée, je crois encore.
C'est ça.
Mais l'armée a vendu une grosse partie, donc il y a un tas de projets qui se sont développés, notamment ce projet d'Espérance Banlieue, d'école, donc, qui pour l'instant est une école primaire.
C'est ça.
C'est bien
tout
ça.
Tout à fait. Une école primaire. Alors, ils ne sont pas propriétaires, elle appartient toujours à l'armée.
C'est loué à l'armée.
C'est loué à l'armée, exactement. L'armée voulait se séparer de ces bâtiments et c'était une bonne occasion pour elle d'en faire bon usage. Et donc, ça appartient toujours à l'armée. Espérance Banlieue a un beau terrain qui permet aux enfants, parce que l'intérêt d'Espérance Banlieue, c'est que l'enfant puisse s'épanouir au travers de ce qu'il apprend, mais en même temps à l'extérieur, sur des choses très pratiques. Ils font donc des potagers, ils ont des endroits où ils peuvent faire des expérimentations. Donc ça, c'est quelque chose de fort pour eux.
Le programme de l'éducation nationale est suivi, j'imagine.
Exactement, le programme est suivi.
Donc ce sont des classes normales qui permettent ensuite à ces élèves de s'intégrer dans un lycée public ou privé, ou un collège plutôt, puisque pour l'instant c'est que le primaire, hein, c'est ça donc,
tout à fait,
donc
exactement.
À partir de la sixième, ils vont dans un collège public ou privé.
Exactement, en fait, c'est juste...
En ayant fait le programme.
Tout à fait.
Mais ils ont en plus un certain nombre de choses.
Voilà, il faut voir que quand on échange avec des parents de ces enfants-là, on a pu faire un Noël, l'entreprise... on a été immergé sur un Noël dans l'école et j'ai demandé à mes salariés partager avec, et j'ai demandé au directeur de l'école est-ce qu'il pourrait y avoir des parents pour que mes salariés partagent avec les parents de ces enfants. Et en fait, les parents des enfants ont partagé. Moi, j'avais une fille qui avait 6-7 ans. Elle était dans l'école du quartier, qui sont souvent parfois des grosses écoles. Elle était noyée. Alors parfois, elle avait un écart de la langue, parfois elle avait peut-être de la timidité. Elle était un peu hors norme, on va dire, par rapport au flux des personnes qui étaient dans cette école. Et donc, je la voyais ne plus s'épanouir. Alors,
souvent d'autres filles.
Cette fille-là, ce témoignage de cette maman. Et donc, cette maman s'est retrouvée à entendre parler de cette école et a dit, je vais essayer. L'école était un peu jeune. Elle a dit, à la semaine près, j'ai vu ma fille changer. Et aujourd'hui, elle rentre le soir à la maison, elle veut faire ses devoirs, elle veut travailler. Je me régale. Cette maman était une maman célibataire. Et je peux vous dire qu'elle en pleurait quand elle racontait ça. Quand on sait que l'éducation pour son enfant, c'est le plus important.
Marc Vigneron, cette école donc, qui est située au Zénith, elle recrute des élèves dans les quartiers défavorisés.
Elle est installée dans les quartiers défavorisés, donc principalement, tout à fait.
En Palau, j'imagine, le Mirail.
La Rainerie,
etc. Donc c'est quand même des populations généralement musulmanes.
Il y a de tout, en fait, en type de population.
De toute façon, il n'y a pas d'exclusive.
Exactement.
La religion n'est pas, c'est pas une école religieuse. Il n'y a pas un enseignement chrétien, catholique.
Tout à fait. C'est une école républicaine. Donc le matin, en fait, il y a la Marseillaise qui est chantée. Il y a la levée des couleurs. Donc on voit le drapeau français qui s'élève. Il y a vraiment une notion pour ces enfants qui sont souvent issus de l'immigration, pas que, mais qui sont issus de l'immigration, de les aider à appartenir à ce pays. En fait.
Et alors, je crois qu'il y a un uniforme aussi.
Alors, il y a un uniforme, exactement.
Ouais. Tout ça est bien accepté sans problème.
Tout à fait, par ces familles-là, tout à fait.
Ouais. Et les familles qui viennent là, finalement, c'est parce qu'elles ont des enfants qui sont mal intégrés dans le public, ou c'est plutôt pour se dire, c'est la pédagogie du public qui ne me plaît pas.
Alors, au début, en fait, quand ils viennent, ils ne connaissent pas vraiment la pédagogie d'Espérance banlieue. Ils ont plutôt, ils se disent plus, l'école dans laquelle il est, mon enfant, je le perds. Je ne l'ai plus. Et souvent, quand je tire la sonnette d'alarme auprès de cette école, l'école
n'a pas de solution.
N'a pas de solution. Ils disent, écoutez, on ne comprend pas. Votre enfant, on n'arrive pas à le cerner. Et donc, le parent se sent démuni. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais trouver une école plus petite. Et vous savez, ces écoles de village qu'on n'a plus aujourd'hui, on a des gros établissements, mais on n'a plus ces petites écoles de village. Espérance banlieue devient une école de village au centre de ces quartiers. Et donc, ses parents viennent
s'inscrire. Les classes, c'est combien de...
Alors, les classes sont... Il peut y avoir des classes uniques, niveau unique, ou des doubles classes. Et en général, c'est 12 enfants, je crois, par classe. Pas plus, même pas. Voilà.
Ah oui.
C'est une dizaine d'enfants par classe.
Donc, c'est une pédagogie quand même très proche des enfants.
Exactement.
Et vous avez donc une maîtresse par classe de 12.
Exactement.
Une maîtresse ou un maître, évidemment.
Tout à fait.
Et ces enseignants, vous les recrutez comment?
Alors, ces enseignants sont recrutés, il y a des annonces qui sont faites. Et alors, curieusement, beaucoup d'enseignants sont intéressés par ce type d'école. C'est-à-dire que c'est une école un peu sur mesure, où on prend du temps avec l'enfant, et cet enfant a besoin d'être accompagné. Donc là, l'enseignant prend vraiment toute la grandeur, en fait, de sa mission.
Et ce sont des gens qui sont passés par l'éducation nationale?
Bien sûr, il y en a qui sont passés par l'éducation nationale. La plupart même sont passés par l'éducation nationale et veulent faire une période dans ce type d'école.
Avec une pédagogie un peu différente.
Voilà, une pédagogie, on prend plus de temps. On a des méthodes qui sont plus appliquées pour des enfants qui ont besoin d'apprendre et qui viennent de plus loin. Et donc, on est vraiment c'est plus chirurgical, j'ai envie de dire.
Ouais. Voilà. Et l'idée générale de cette école, donc le fondateur d'Espérance banlieue, vous m'avez dit qu'il était toulousain?
Alors pas du tout, il est parisien.
Il est parisien.
L'histoire, elle est partie. Quand vous savez, il y a eu les émeutes dans les banlieues. Alors j'ai plus l'année, mais je crois que c'est 2008 ou dans les années 2000 et quelques. Vous savez, il y a eu des banlieues qui ont brûlé à Paris, des jeunes en fait qui faisaient brûler des voitures. Et il y a eu pas mal d'histoires autour de ça. Et ce chef d'entreprise s'est dit, c'est pas possible, on crée une bombe à retardement. C'est-à-dire tous ces jeunes qui ne vont plus à l'école, en fait, vont créer la France de demain, et ce sera une bombe à retardement. Il faut leur apprendre à lire, à écrire, à être intégrés dans notre société. Et donc, cette idée est partie de là, à dire, si on les garde en déscolarisés, en fait, on crée une jeunesse qui n'a plus d'espérance. Voilà.
Ouais. Et il est vrai que, face à la montée du communautarisme, à laquelle on assiste depuis quelques années, renforcé par un certain nombre de prises de position de quelques partis politiques, on a le sentiment que l'unité nationale est en train de se dissoudre avec des groupes, des communautés qui n'échangent plus, ne partagent plus grand-chose en commun. Hein. Et souvent, ce qu'on appelle en sociologie le capital culturel s'est réduit à un tel petit niveau commun que le dialogue devient possible. Donc c'est un peu ça, j'imagine, l'idée derrière, c'est de redonner du capital culturel.
Tout à fait.
Parce que la levée des drapeaux, c'est pas neutre. Quand même.
Exactement. Et je vais vous dire une chose, ce qui est quand même dingue, c'est que pendant quelques années, on pensait que l'État s'occupait de la société et que les entreprises s'occupaient du secteur économique. Et avec le Covid, on a vu, et les gilets jaunes avant, on a vu en fait que l'entreprise ne pouvait plus dire « ça ne me regarde pas ». Ils se retrouvaient avec des gens de l'entreprise, gilets jaunes, et qui manifestaient parce qu'ils ne pouvaient plus, il y avait des colères. C'est rentré dans l'entreprise et certains chefs d'entreprise se sont dit « en fait, on ne peut plus faire deux mondes séparés. Il faut que l'entreprise vienne dans la société et participe à relever cette société ». Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, d'entrepreneurs qui veulent participer au bien commun par des œuvres, par des choses, je le vois moi dans mon réseau, de chefs d'entreprise qui me disent comment je peux aider mon salarié qui habite dans un quartier difficile, comment je peux aider ces gens qui essayent d'aider pour que les gens puissent aller travailler et s'en sortent. Exactement. Alors, à tout point de vue, on le voit aujourd'hui à tout point de vue, on voit des entreprises qui aident des associations, on voit des entreprises qui aident avec, à leur moindre mesure, à aider des gens des quartiers. Et ça, c'est, je pense, des choses nouvelles.
C'est encourageant, je trouve, de voir que dans ces quartiers, il n'y a pas une espèce de fatalisme de la marginalité. Il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir, il y a des parents qui ont envie de les aider. Et au fond, l'éducation nationale ou le système public n'est pas capable de répondre à ça parce qu'il gère des grosses masses. Je ne critique pas le système éducatif français qui est ce qu'il est, mais c'est vrai que c'est difficile pour un lycée qui a 1200 élèves, un collège ou un lycée qui en a un nombre incalculable de classes avec 30 élèves par classe, c'est difficile d'aller faire ce que vous disiez, de chirurgical en quelque sorte. Et donc ça marginalise tout un tas de gens qui pourtant voudraient rentrer dans le système. Je trouve formidable que vous ayez des associations comme la vôtre qui remplissent cette mission. Et c'est aussi une mission qui est remplie plus ou moins par l'enseignement libre quand même. Enfin, vous êtes de l'enseignement
tout
libre.
Tout à fait.
Donc vous êtes une nouvelle offre dans la panoplie de l'enseignement libre.
Alors je pense que tout système, à partir du moment où il est gros et grand, il est difficile à cerner, à faire bouger. Et en fait, il faut qu'il y ait des petites initiatives comme ça, qu'elles soient petites pour qu'elles puissent être plus agiles et adaptées pour que la grande majorité après puisse s'en inspirer. Et je pense qu'on parlait de l'éducation avec Espérance Banlieue, ce sont ces petites écoles pépinières, vous voyez, qui essayent, qui essayent d'implanter des nouvelles méthodes.
De faire une offre différente, avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle façon d'aborder.
Et qui inspirent les grandes structures. Mais comme dans le milieu entreprise, les petites entreprises sont là pour inspirer les grandes. Ouais. Alors souvent, les grandes, après, les rachètent pour essayer de pouvoir acquérir rapidement cette méthode. Mais c'est vrai qu'il faut laisser ces inspirations, ces petites inspirations. Et justement, quand on a la foi chrétienne, on est persuadé que c'est du petit qu'on peut grandir. Et en fait, on le voit dans le milieu économique, c'est la même histoire. C'est souvent le petit qui nous étonne. Quand on est grand, on oublie.
On dira pas que c'est l'histoire de David contre Goliath, mais c'est en réalité, il faut accepter la diversité. Mmh. Et il faut accepter, pour faire société, comme on dit un peu trivialement en sociologie, il faut donner un socle commun de valeurs. Mmh. Et cette valeur n'exclut pas des approches diversifiées pour les atteindre. Moi, je crois beaucoup à ça et je trouve que vous répondez parfaitement à cette logique. Et je suis admiratif du fait que vous le faites de façon complètement œcuménique, c'est-à-dire que vous ne vous posez pas, même si vous êtes chrétien avec une foi chevillée au corps, vous ne posez pas la question aux gens qui viennent de savoir quelle est leur religion. Donc ça, je trouve ça tout à fait admirable.
Mmh. Mais on se rend compte de plus en plus que de toute façon, la foi vient après. Mais en fait, on est obligé aujourd'hui d'œuvrer pour un bien commun. Et ces personnes-là disent « Mais d'où tires-tu ça ? J'ai la foi. » Et en fait, aujourd'hui, en fait, nous, la foi nous a transmis des choses. On les vit. Et en fait, en les vivant, les gens nous demandent « Mais d'où tires-tu ça ? »
Par l'exemple.
Voilà.
Vous pouvez ramener des gens dans une religion qui est malheureusement bien souvent ignorés par tout un tas de structures et tout un tas de gens finalement. Moi, je déjeunais à midi avec des amis, on discutait un peu de ça, qui me disaient c'est curieux, le niveau de culture à zéro de ce qu'est la religion catholique. Les gens ne savent plus ce qu'est le Christ, ne savent plus ce qu'est même la fête de Noël. J'ai des amis qui me prenaient cet exemple en me disant, mais la fête de Noël, il y a des gamins français, hein, je ne vous parle pas d'autres religions, qui ne savent pas pourquoi il y a une fête à Noël. Quoi. C'est une fête pour faire des cadeaux. La naissance de Jésus, ah bon, c'est qui Jésus? Donc, on en est là quand même.
Ça amène beaucoup de questions. Ouais. En tout cas, des beaux échanges naissent de beaucoup de gens qui ne connaissent plus. Et là, on est rentré en carême. Eh bien, ma responsable administrative est venue me voir en me disant, Marc, je sais que tu es rentré en carême. Rappelle-moi, qu'est-ce qui se passe en carême? Et vous voyez, ça amène à des questions, à plein de discussions. Le monde le cherche. Le monde, en tout cas, a besoin de se retrouver.
Ouais.
Et en fait, on est juste là, des témoins. On n'a pas besoin de brandir un crucifix. On est des témoins. Ce témoignage, on peut le porter si on a cette crucifix en plein cœur, en fait. Là, les gens vont venir le chercher.
Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle parole qu'on va arrêter notre émission, puisque le temps est écoulé. Merci, Marc Vignera, d'être venu porter ce témoignage. Et merci de ce que vous faites dans Espérance Banlieue, une école formidable.
Merci, Bruno.